Merci d'écouter RFI, 1h à Paris, Bruxelles et Kinshasa, minuit, temps universel.
Paul Lancin Spinelli.
Le Rwanda, cerné par les condamnations internationales pour son soutien au M23 après la prise de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce jeudi, la Belgique a réclamé des sanctions de l'Union européenne à l'encontre de Kigali. Le chef de la diplomatie française, lui, est parti à la rencontre des chefs d'État congolais et rwandais. Il est encore trop tôt pour connaître les circonstances du pire crash aérien survenu aux États-Unis depuis 2001, selon les enquêteurs. Un rapport préliminaire est attendu dans les 30 jours pour savoir comment cette hélicoptère militaire et cet avion de ligne sont entrés en collision mercredi soir au-dessus de Washington, faisant 67 morts. Donald Trump, lui, a directement pointé un prétendu laxisme en matière de contrôle aérien de la part de Barack Obama et Joe Biden. Un nouvel échange d'otages du Hamas contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël. Et puis une Zimbabwéenne double championne olympique de natation en piste pour tenter de devenir la prochaine présidente du Comité international olympique. Portrait à suivre de Kirsty Coventry, en fin d'édition. Le numéro d'équilibriste de la diplomatie française entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce jeudi, Jean-Noël Barrot s'est entretenu avec Félix Tshisekedi à Kinshasa. Le ministre français des Affaires étrangères a rappelé au président congolais la position de Paris, à savoir la condamnation de l'offensive sur Goma du M23 soutenue par le Rwanda, tout en réclamant aux forces rwandaises justement de quitter instamment le territoire congolais. Dans la foulée, Jean-Noël Barrot s'est envolé pour Kigali. Selon nos informations, il s'entretiendra ce vendredi matin avec le président rwandais Paul Kagame. Le Rwanda mise également sous pression de plus en plus forte par un autre pays, la Belgique, Pierre Benazé.
Devant la Chambre des représentants ce jeudi, le Premier ministre Alexander De Croo demande formellement au Rwanda de mettre un terme à son soutien au M23. Il martèle que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doit être respectée. Il juge inacceptable les violences dans l'Est. Le ministre des Affaires étrangères Bernard Quintin va plus loin. Il révèle avoir demandé aux autres pays de l'Union européenne leur aide en faveur de la RDC face à Kigali. Les débats ont eu lieu lundi et mardi, d'abord avec les autres ministres des Affaires étrangères, ensuite entre les 27 ambassadeurs au COPS, le comité politique et de sécurité de l'UE. D'autres capitales européennes confirment que la Belgique a en quelque sorte demandé à ses partenaires le maximum vis-à-vis du Rwanda. Il faut utiliser tous les leviers pour un impact significatif, estime Bernard Quintin. Il s'agirait de suspendre d'abord le dialogue sécuritaire, puis le versement au Rwanda de 20 millions d'euros pour sa mission militaire de lutte contre le terrorisme dans la province de Cabo Delgado, au Mozambique, et enfin de suspendre l'accord UE-Rwanda sur les matières premières critiques. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Les États-Unis face à la pire catastrophe aérienne de leur histoire depuis 23 ans. 67 morts mercredi soir dans le ciel de la capitale Washington. Un hélicoptère militaire a percuté un avion de ligne. Pour le moment, les enquêteurs rappellent qu'il est trop tôt pour déterminer les causes de l'accident. Les pistes d'une erreur humaine ou d'un incident mécanique ne sont ni établies ni à exclure, disent les experts. Pourtant, Donald Trump, lui, en est sûr. Ce crash aurait dû être évité. C'est ce qu'avait écrit le président américain sur son réseau Truth Social la nuit dernière. Et lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche ce jeudi, Donald Trump a même accusé ses prédécesseurs démocrates d'avoir baissé les exigences en matière de contrôle aérien.
Je mets toujours la sécurité au premier plan, alors qu'Obama, Biden et les démocrates mettent la politique au premier plan. Et ils ont mené leur politique à un niveau que nous n'avions jamais vu auparavant, c'est-à-dire au niveau le plus bas. La semaine dernière, bien avant le crash, j'ai signé un décret qui rétablit nos normes en termes de sécurité aérienne, et les membres de mon administration vont mettre la barre très haut en la matière, car nous avons besoin de personnes douées pour cela, et nous allons restaurer la confiance du peuple américain.
We'll restore faith in American air travel.
Le président américain Donald Trump, des drapeaux jaunes du Fatah, mais aussi ceux du Hamas à Ramallah, en Cisjordanie occupée, où le parti de Mahmoud Abbas, chef de l'autorité palestinienne, est au pouvoir, le Fatah. Une foule de milliers de Palestiniens s'est réunie ce jeudi pour accueillir des prisonniers libérés par Israël, au total 110 libérations. En échange, le Hamas, un peu plus tôt, avait relâché 8 otages. Il s'agit dans le détail de 3 Israéliens et de 5 ressortissants thaïlandais. Dialoguer pour bâtir l'avenir politique de la Syrie, c'est l'un des objectifs promis par le nouveau président de la transition, Ahmad al-Shara, lors de son tout premier discours à la Nation prononcé ce jeudi. Cette discussion de tous les points de vue se fera au sein d'une conférence du dialogue national. Le successeur de Bachar al-Assad à la tête du pays entend aussi faire du maintien de la paix civile une priorité. Mais pourtant, ces 13 années de guerre ne sont pas totalement terminées en Syrie. Au nord-est du pays, la Turquie continue de bombarder la région autonome kurde. Les mouvements de cette minorité tentent donc de faire corps. Et dans cette optique s'opère un rapprochement majeur entre, d'un côté, le parti de l'Union démocratique au pouvoir au Kurdistan syrien et l'opposition du Conseil national kurde exilé, lui, au Kurdistan irakien. Luca Lazo a pu rencontrer son porte-parole.
Pour Jadahan Ali, porte-parole de l'opposition kurde syrienne et rencontrée à Erbil, il y a urgence à rassembler les différentes tendances politiques kurdes largement divisées depuis l'éclatement de la révolution en 2011.
Pour nous organiser en tant que kurdes de Syrie, il faut commencer par réparer la maison kurde, avoir les mêmes positions, les mêmes revendications et nous faire ainsi une place à Damas alors qu'une nouvelle Syrie est en construction.
Un dialogue impensable il y a quelques semaines s'établit entre l'opposition en exil et le parti de l'Union démocratique qui administre le Kurdistan syrien. Jadahan Ali souligne cependant un préalable, mettre un terme à la guerre qui oppose ce dernier à la Turquie.
La Turquie peut tuer 5 des nôtres à chaque fois que les Kurdes en tuent 2 des leurs. Nous allons tout perdre si la nouvelle constitution s'écrit sans nous parce que nous sommes en guerre. L'intérêt des Kurdes ne sera pas préservé tant que nous sommes en guerre.
Au-delà de préserver l'autonomie du Kurdistan syrien, une feuille de route commune entre ces factions devrait faciliter le retour des 300 000 réfugiés kurdes syriens en Irak.
Notre devoir, c'est de trouver une solution pour que notre peuple retrouve ses terres. L'exil n'est plus un horizon dans la nouvelle Syrie. Il faut que les foules soient de retour si les élections sont organisées. Comment pourraient-elles se battre pour leurs droits si elles ne peuvent pas voter ?
Mardi, un accord a été trouvé entre les différentes parties kurdes pour envoyer une délégation commune à Damas et négocier d'une même voix avec l'autorité de transition. Luca Lazo, Erbil, RFI.
Des indices de bourrage d'urne, des modifications, des résultats en faveur du parti au pouvoir, l'invalidation délibérée de votes de l'opposition, ces irrégularités relevées lors de la présidentielle au Mozambique en octobre dernier ont été énumérées dans le rapport final des observateurs de l'Union européenne déployés dans le pays au moment du scrutin. Daniel Chapou avait finalement été investi il y a 2 semaines. Le Frelimo est toutefois très contesté. Le parti au pouvoir depuis 50 ans avait répondu en réprimant violemment des manifestations menées par l'opposant Venancio Mondlane. Plus de 300 personnes sont mortes lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Et puis 7 finalistes dans les starting blocks pour décrocher non pas une médaille olympique, mais la tête du comité international olympique. L'élection est prévue en Grèce le 20 mars prochain et ce mercredi à Lausanne en Suisse. Chacun des prétendants a dû motiver sa candidature lors d'un grand oral. Parmi les profils, il y a celui de l'ancienne nageuse zimbabwéenne Kirsty Coventry. La double championne olympique en 2004 et 2008 a notamment les faveurs de l'actuel président Thomas Bach pour son ancrage au sein des instances du CIO, Christophe Diremzian.
Jamais la perspective de piloter le CIO n'avait suscité autant de convoitises. 7 prétendants, des propositions communes sur les enjeux climatiques, la réforme de la gouvernance ou l'usage équitable de l'intelligence artificielle dans la performance, mais aussi des idées qui peuvent faire tiquer. Le candidat le plus influent reste Sébastien Coe, artisan de la réussite des Jeux de Londres, président de la riche Fédération internationale d'athlétisme, mais adepte d'un sport business critiqué, il ne s'est pas fait que des amis dans la famille olympique en décidant seul de verser des primes aux médaillés d'or des JO de Paris. Ces jeux populaires, David l'appartient, espère en tirer profit malgré son appartenance récente au CIO. Dirigeant multicarte ambitieux, le patron du comité olympique français et de l'Union cycliste internationale a su tisser un réseau de relations capable d'en faire un sérieux outsider. Mais si la surprise venait finalement de Kirsty Coventry, double championne olympique de natation, la Zimbabwe qui aurait la préférence de Thomas Bach, a rapidement gravi les échelons depuis son élection en 2013. Elle est aujourd'hui membre de la puissante commission exécutive, plus jeune des candidats, 41 ans, première femme, première africaine à accéder au poste suprême. La perspective pourrait séduire une institution soucieuse d'évoluer vers encore plus d'inclusion et d'universalité.
Christophe Diremzian. Et puis en basket, on vient d'apprendre à l'instant la sélection de la star française Victor Wembanyama, 21 ans, pour son tout premier All-Star Game en NBA. Ce sera, après Tony Parker, Joakim Noah et Rudy Gobert, le quatrième français à jouer le match des étoiles de la Ligue nord-américaine de basket. C'est la fin de ce journal RFI. Il est 1h10 à Paris, minuit 10 temps universel.